Alors, donc, je suis obligé de te faire confirmer que je viens de te demander la permission d'enregistrer et que tu es informé, que tu es d'accord pour une durée de 1 à 99 ans.
D'accord. On va dire 10.
Je n'ai pas pensé à te demander d'enregistrer le début, donc on va dire que tout le début de la conversation est disparu à jamais. Par contre, là, tu me posais une question sur l'influence de l'environnement. Et ça, c'est une question qu'un sociologue ou qu'un anthropologue ne peut pas ignorer. Quelle est l'influence? Alors, en gros, le thème, c'était quoi? C'était les relations sociales en général, pas amoureuses du tout. Tu ne m'as pas parlé de relations amoureuses, ni charnelles, ni quoi que ce soit. Nous avons parlé uniquement de relations amicalo-professionnelles. Et nous en étions arrivés, comme tu me disais que j'avais également beaucoup voyagé, ce à quoi je t'ai répondu, bah non, pas tellement, je ne suis pas un grand voyageur. Et tu me demandais donc si je croyais à l'influence du lieu, du pays, du continent, sur quoi?
Sur la qualité des relations. Ouais. Sur la qualité des relations que tu peux avoir.
Voilà.
Dans ta vie amicale, professionnelle.
Et j'avais commencé à te répondre qu'en fait, ça dépend l'âge de la vie. Il y a un âge où on est plutôt utopiste et où on a tendance à penser qu'on a la force intérieure d'influer sur l'environnement. Et il y a un âge où on est plutôt tragique et où on se résigne. Sur la conclusion que, en fait, bah, on a beau penser, espérer ce qu'on veut, en réalité, c'est plutôt l'environnement qui, à la fin, pèse sur notre état d'esprit. Et que seul, quelqu'un de volontaire ne peut pas retourner à une communauté, ne serait-ce qu'un village, a fortiori une ville, et a fortiori une municipalité, et a fortiori une région, et a fortiori un pays. Le plus ingénieux, le plus volontaire, le plus rigoureux des ingénieurs en quoi que ce soit peut pas aller au Zimbabwe et rendre ce pays développé en 6 mois. Et en fait, je te disais ça dans un premier temps, c'est là que j'ai pensé à allumer le micro. Et la deuxième partie de ma réponse va être basée sur mon expérience. Donc autant la première, c'est une généralité, autant la seconde, c'est une... Comment on appelle le contraire d'une généralité à un cas particulier. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte en m'expatriant, même si c'est pas... Enfin bref, je sais pas si c'est une vraie ou une fausse expatriation... Ça ne regarde que moi, mais en tout cas, en passant une partie de mon temps certaine à l'étranger, je me suis rendu compte qu'en fait, l'environnement soit renforcé, soit diminué certains traits de caractère. Et, pour te prendre vraiment un exemple très concret, je pensais que l'Italie allait gommer chez moi une part d'anxiété et me rendre plus indolent, plus coulant, plus sprezzatura, plus détendu du gland, tu vois, plus moins rigoureux, moins précis. Parce qu'en fait, je suis entre les deux. C'est-à-dire que de la même manière que je suis un faux ingénieur qui n'a jamais pratiqué comme ingénieur, bah, je suis un peu un faux scientifique. C'est-à-dire que je suis carré sans être extrêmement carré. Et je pensais que ça allait faire pencher la balance de ce côté-là. Et en réalité, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que chaque année, je me dis, je suis de plus en plus ponctuel, de plus en plus rigoureux, de plus en plus précis, parce qu'en fait, ce défaut m'énerve. Je parle des Italiens du Sud, c'est-à-dire Rome et en dessous. Au Nord, c'est un peu différent, mais au Sud, c'est très, 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 très agaçant. Notamment quand tu travailles ou que tu projettes quoi que ce soit, il n'y a pas assez de choses écrites. La moitié des trucs, c'est oral. Tu reprends 3 fois les mesures. Enfin, c'est extrêmement énervant. J'ai refait là, on doit refaire là chez moi une pièce. Et au début, je prends toutes les mesures, je fais un plan d'ingénieur, etc. On me dit dans un premier temps, ça sert à rien. Puis après, quelqu'un vient les prendre. Puis après, quelqu'un vient les prendre et refait un plan. Alors que ça fait 30 jours que je dis, mais moi j'ai un plan. Enfin bon, bref, tu vois. Et puis entre deux, on te dit le tiroir sera là, le tiroir sera pas là. Donc moi je dis, mais attendez, c'est pas une manière de travailler. Il faut un plan qui une projection de ce qu'on va faire, il faut que le client signe en bas en disant « on est d'accord, c'est ça que je veux ». Et la projection aujourd'hui, il y a plein d'outils pour faire des projections sur un écran, et on voit la couleur, on voit la forme, on voit les dimensions, etc. Que ce soit une cuisine, une salle de bain, un établi ou peu importe, et on signe en disant c'est ça que je veux. Et si à la fin ça ne ressemble pas au plan, eh ben le client peut se plaindre. Si ça ressemble au plan, le client peut pas se plaindre. Eh ben non. Non, c'est pas possible. Par contre, on va se voir 3-4 fois, on va parler du truc, 5 ans pendant des heures. Mais moi, j'ai pas envie de parler pendant des heures. Ça sert à rien, en fait. Puisqu'à chaque fois, on me dit un truc différent. Un jour, tu auras des tiroirs à droite, un jour, tu auras des tiroirs. Mais ça sert à rien. Je veux signer un truc, tu vois. Bref. Voilà, ça c'est un détail. Et en fait, ce truc-là me rend. J'étais, on va dire, organisé correctement en arrivant en Italie, X années plus tard, je suis extrêmement organisé. C'est-à-dire qu'en fait, le défaut ambiant a renforcé à l'envers un truc, alors que je pensais au contraire, mon but c'était de devenir un désinvolte. C'était de devenir un peu plus africain, tu vois, un peu plus. Un peu moins. En fait, j'aimais ce que j'aimais à Rome en arrivant lors de mon premier séjour en 2005. Puisque c'est la première fois que j'ai vu cette ville, c'était en 2005, à l'époque où j'étais salarié, j'avais un voyage d'affaires. J'ai aimé l'africanité, parce que c'était quelque chose qui m'était totalement étranger à l'époque. Et je cherchais, et en fait là je fais de la psychanalyse, de l'auto-psychanalyse, je me sculpte entre guillemets, et je me suis rendu compte qu'en fait ce qui me manquait quand j'habitais à l'époque la périphérie de Paris, dans la grisaille, etc., et que j'avais un job routinier, besogneux et tout, il me manquait cette part de one again, cette part d'africanité, cette part de on se gare sur les clous, cette part de d'improvisation. Tu vois ? Et en fait, 20 ans plus, 18 ans plus tard, en réalité, je me rends compte que cet environnement, au lieu de me la forger, de me l'offrir, en fait, a renforcé l'exact contraire. Tu vois ce que je veux dire ?
Complètement. Moi, je peux rebondir sur ça.
Vas-y.
Parce que moi, en Amérique du Sud, j'habite en Amérique du Sud et j'ai un peu le même constat que toi. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'habitais en Europe, j'étais en France et en Angleterre. Et je pensais qu'en étant en Amérique du Sud, j'allais devenir beaucoup plus relax.
Ah, ben ça me fait plaisir. T'es le premier qui comprenne ça. Dites en commentaire si vous avez vécu des expériences similaires. Ça m'intéresse énormément.
Et j'ai les mêmes expériences que toi. J'étais dans mon appart à l'époque, en Amérique du Sud, hein, toujours. Et ça prend 3, 4, 5 rendez-vous avant que le truc il soit déjà compris. Et ensuite que les mecs ils viennent. Des fois ils viennent, des fois ils viennent pas. Alors en Amérique du Sud, je crois que c'est encore pire. C'est-à-dire que des fois ils vont te dire je viens et ils viennent pas. Et ils t'envoient même pas un message pour te dire je viens pas.
Non, ça n'existe pas ici. Faut pas exagérer. Ils viennent, mais il y a beaucoup trop de parlotte et il n'y a pas assez de tableaux Excel et de plans.
Ouais, il n'y a pas de rigueur, mais on va dire que peut-être que l'Italie, il y a un peu plus de rigueur qu'en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, c'est vraiment, il n'y a pas de rigueur du tout, quoi. Puis on te sort des excuses, ouais, mais j'étais en soirée, ou des excuses bateaux, des excuses bidons, ouais, et peu importe. Donc, non, je te rejoins complètement là-dessus. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu pareil que toi. J'étais allé en Amérique du Sud justement pour être plus relax, plus tranquille, voir la vie d'un autre angle. Et finalement, ça a renforcé mon côté.
Eh ben, ça me fait plaisir, camarade. ça me fait plaisir. Et alors, c'est certainement pas une étude de cas qui fera une audience de mammouth, mais c'est une étude de cas qui peut-être reflétera des préoccupations de certains et certaines d'entre vous, hein, parce que tu vas quelque part pour te changer. Et oui, tu changes, mais pas dans le bon sens. Et ça, c'était inattendu, tu vois. Ça, je m'y attendais pas du tout. Ça, je m'y attendais absolument pas.
Mais si c'est le cas, justement, si c'est le cas et qu'on arrive à faire cette analyse, quelles sont les solutions.
Ah ben, j'ai aucune solution pour moi, donc attends que je la trouve pour moi avant de te la vendre, camarade.
Bon, voilà, c'est plus pour toi, par exemple. Qu'est-ce que... Alors, je sais pas, j'ai pas envie de jouer les rôles inverses, mais comment, toi, tu vois l'avenir?
Ah ben, c'est exactement... C'est exactement la préoccupation du moment, c'est-à-dire que je suis à l'âge pivot de ma vie, puisque dans le meilleur des cas, j'arriverai à 90 et j'ai 45. Et puis je sais même pas si j'ai envie de dépasser 90, donc on va dire que globalement je suis au pivot. Je ne sais pas si avec l'acuité et la précision que m'ont fait gagner ces 10 dernières années, je ne sais clairement pas si ça va fructifier dans un environnement comme ça, parce que je commence à m'agacer très très vite, en fait.
Ouais.
Je commence à m'agacer très 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 vite et je t'avoue que je me demande si mes compétences sont appliquées au bon endroit et puis après quand tu leur montres que c'est absurdément pas productif de procéder ainsi et comme tu le fais avec un certain manque de diplomatie parce qu'en plus c'est pas ta langue maternelle donc t'as pas la rondeur, t'as pas toutes les tournures pour faire des sous-entendus etc. Ils te traitent de mal éducato, ils te disent que blabla, l'éducation etc. Enfin mec, t'es ouvrier en cuisine quoi si tu veux, enfin t'es salarié menuisier, moi mon éducation et mon élégance etc. Dans mon pays on me paye pour ça. C'est-à-dire que il y a un moment c'est juste que ça fait trois fois que tu viens, que t'as rien noté, que t'as fait aucune photo et qu'à chaque fois t'as un souvenir différent de ce que tu dois faire. Donc quand je te demande un plan et que je te le demande un peu de manière un peu exigeante, c'est pas de la mauvaise éducation, c'est juste qu'en fait j'en ai marre en fait. Donc ben là je vous livre une préoccupation de manière un peu 36-15 my life, de manière un peu influenceuse. Soit je suis allé trop au sud de l'Italie et il fallait peut-être rester entre les lacs et la Toscane, il fallait peut-être pas descendre en dessous de... Parce que de la même manière que tu sais en France, Paris est au nord géographiquement, mais qu'on a l'impression qu'en gros Paris est presque au milieu, tu vois, et qu'il y a en dessous de Paris, au-dessus de Paris, on a un tropisme en fait, on a une dysgéographie ou une dysmorphie au niveau de la France, où on a l'impression que Paris est au centre de tout, alors qu'en fait Paris est très au nord. Et ben de la même manière, on a le contraire en Italie, c'est-à-dire que Rome est au milieu géographiquement. Mais en fait, culturellement, Rome est au sud.
Ouais.
Et Rome n'est pas... Paris est autant Paris est autant au milieu que Rome n'est pas au milieu, tu comprends ? Il y en a une qui est au milieu géographique, mais qui n'est pas au milieu culturel, et il y en a une qui est au milieu culturel, mais qui n'est pas au milieu géographique. Et peut-être fallait-il viser plus au nord.
Est-ce que je peux te poser une question, peut-être que c'est pas l'endroit, mais qu'est-ce qui a fait que tu as déménagé en Italie? Qu'est-ce que tu trouves en Italie que tu trouves pas ailleurs?
Oh ben je l'ai expliqué à 50 000 reprises lors de mon premier voyage en 2005, d'ailleurs je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été touché par une espèce de grâce qui était une partie de la beauté esthétique, comme tous les gens sensibles et comme tous les artistes, de Stendhal à Flaubert, en passant par Wagner, Dante, Goethe, et puis absolument tout le monde, quoi. Enfin, tous les artistes sont sensibles à la lumière italienne, à l'art de vivre italien, et même à une forme de socialité que je ne retrouvais absolument pas à Paris à l'époque.
Ouais.
Et puis l'autre part, c'était la part d'africanité que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que je sentais quelque chose de chaud et de bouillant, que je ne retrouvais pas dans la France du Nord de cette époque, et je me disais, bah, y a une partie de moi, la partie métissée, la partie gombo, qui ne servait à rien, tu vois, qui ne trouvait pas d'écho, voilà. Et puis peut-être que ça, les deux combinés, bon, bref, on fait l'émerveillement stendhalien. Mais là, je sais, d'abord, je cherche beaucoup moins ma part africaine qu'à l'époque, parce que je suis pas sûr qu'elle apporte grand-chose, hein, tu vois, à part un certain goût musical et courir vite et sauter au plus haut que les autres et un autre petit truc en forme d'emoji violet et vert. Voilà, à part ça, honnêtement, la plus-value de l'africanité voilà, on la cherche toujours. Voilà, donc je suis à peu près convaincu de l'influence de l'environnement sur la direction. Donc je suis déterministe, tragique. Par contre, je ne pense pas que la direction soit celle qui soit initialement prévue. Tu vois, on pense que ça va pousser dans un sens et ça peut pousser dans l'autre. Attends, j'ai 3% de batterie. Je me branche. Sauvé. Sauvé par le gong, comme on disait à une époque. Voilà, as-tu d'autres... Voulais-tu me parler d'autre chose ? On rappelle que tu n'es pas VIP, que tu as acheté une étude de cas, et pourquoi... Enfin, comment as-tu découvert qu'on pouvait acheter une étude de cas ? Ben certainement parce que, contrairement à 90% des gens, tu as lu la description en bas des vidéos.
Oui, ben voilà. Sur le site internet. Et
ben ouais, mais 90% des gens ne lisent pas les descriptions, ils posent toujours les mêmes questions, c'est comment on peut acheter une étude de cas et quel livre tu conseilles ? Alors que je rappelle que dans la liste des 97 livres sur l'amour, les femmes et les relations, figure au pied de toutes les vidéos de la chaîne principale, Vidéoscopie, depuis des années. Voilà, donc en fait, toutes les semaines, il y a la liste, et puis on me demande tout le temps, hein, t'as pas des livres ? Il suffit de lire la description.
Ouais. Pour rebondir un petit peu sur ce qu'on a dit, est-ce que une des solutions serait, alors il faut être capable de le faire, il faut avoir les moyens financiers il faut avoir voilà peu d'attaches. Est-ce que vivre dans différents pays de manière remote, hein, comme on dit en anglais, serait une solution pour les gens qui justement aiment certaines qualités d'un pays? D'autres qualités.
Bah, c'est ce que je fais.
Etc.
C'est ce que je fais. Je vis entre la France et l'Italie. Après, ça demande d'avoir des relations amicales entrecoupées. C'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Il y a des sédentaires, il y a des faux nomades et il y a des vrais nomades. Voilà. Moi, je pense être un faux nomade, c'est-à-dire que je suis nomade, mais pas non plus dans les extrémités de quelqu'un qui aurait des riades à Marrakech, des appartements à Londres, des pieds-à-terre à Paris, des villas à Miami, à Los Angeles. Voilà. J'ai pas tout ça et je ne le voudrais d'ailleurs même pas. Parce que le peu d'immobilier que j'ai, et Dieu sait que j'en ai quand même pas beaucoup par rapport à des millions de gens, j'en ai un peu plus que qu'un, mais vraiment très très loin d'avoir un parc de fous, c'est un emmerdement administratif sans nom. Donc les gens qui ont des riades, des villas, des trucs et des machins, je me dis, mais comment font-ils ? Comment font-ils ?
Ouais, et moi je parle même pas de ça, je pense que c'est une perte d'argent, hein. Monumental, enfin, selon moi. Moi, je pensais plus d'une personne qui partait, comme tu disais, par exemple au Maroc, ensuite au Vietnam, puis en Amérique du Sud, tout en louant à chaque fois, quoi, hein, en n'ayant aucune attache, aucun appartement, etc. C'est juste passer 3 mois en Thaïlande, ensuite passer 3 mois, je sais pas moi, en Europe de l'Est, et puis passer 3 mois en Amérique latine. Ce genre de style de vie, quoi.
J'ai du mal, j'ai, à titre personnel, énormément de mal à voir comment tu nourris des relations amicales avec des gens que tu vois une fois par an. Enfin, 3 mois par an.
Là, c'est compliqué, c'est compliqué.
L'époque a changé. Et l'époque où le digital nomade était valorisé, moi, l'époque où j'écrivais mon premier roman, mon premier récit, L'homme idéal, au fumoir dans les années 2000, et où c'était perçu comme avant-gardiste que d'avoir un Mac. Rien que le fait de sortir un Mac, les gens te regardaient. C'est-à-dire que l'idée de bosser dans un resto avec un ordinateur transparent, avec l'écran vert ou blanc comme derrière, c'était déjà extrêmement avant-gardiste, les gens ne comprenaient pas, c'était l'époque où on n'avait pas de smartphone, etc., etc. On travaillait, on n'avait pas de Wi-Fi, on n'avait rien. Certainement pas d'abonnement data ou quoi que ce soit. Et puis ensuite, il y a eu la mode de Tim Ferriss, digital nomade, etc. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les pays qui reçoivent le plus de digital nomades, comme par exemple certains pays d'Asie du Sud-Est, ou je sais pas où ils sont, les digital nomades, mais enfin on imagine aux à Dubaï, en Europe ils sont au Portugal. De toute façon, ils sont là où les taxes sont les plus basses, donc c'est pas très compliqué à trouver. En Europe, ils sont au Portugal, en Moyen-Orient, ils sont à Dubaï, en Indonésie, ils sont à Bali, avant ils étaient en Thaïlande, etc. Et il faut savoir que désormais, c'est plus aussi valorisé, et moi j'ai même connu des locaux, des occidentaux, mais qui habitaient là-bas, qui me disaient, les digital nomades, on les reconnaît tout de suite, on se fout un peu de leur gueule, tu vois.
Ah ouais, non, ils sont pas forcément bien vus, hein. Bien sûr.
Les mecs qui squattent, squattent dans des cafés toute la journée à faire leur conf call avec leur casque, etc. Ça vend moins du rêve que ça n'en vendait au début des années 2000, tu vois. Mais c'est normal aussi, les choses changent. Donc moi, c'est pas un mode de vie que je trouve particulièrement, on va dire, déstressant ou relaxant. Voilà, en tout cas, ça ne me correspond pas et je ne serai pas 3 mois par an dans un pays, 3 mois dans l'autre, 3 mois dans l'autre, 3 mois dans l'autre. Mais si quiconque nous écoute veut le faire, grand bien lui en fasse. Je n'ai rien contre personne et contre les modes de vie de personne. Grand bien lui en fasse.
Ouais. On est d'accord. Non, mais je pense qu'on en fait beaucoup. Hein.
Voilà, camarade. Rappelle-toi de... Alors, je ne répéterai pas ce qu'on a dit au début, puisque si on ne l'a pas enregistré, on l'a pas enregistré, c'est trop tard. Mais pense quand même à ce que je t'ai dit au début. Le jour où on décide qu'une question n'a pas de réponse, il vaut mieux arrêter de se la poser, parce que sinon on devient fou.
Il y a certains
professeurs qui sont devenus fous à se poser des questions qui n'avaient pas de réponse, tu vois. Et à un moment, on leur a dit, bah arrête de poser la question, ils n'ont pas arrêté, ils sont devenus fous. Alors c'est pas le même genre de question, mais je t'invite à réfléchir à cette devise et à te dire, est-ce que vraiment je crois qu'il y a une réponse à ma question et je continue à chercher? Ou est-ce qu'à un moment j'abdique en me disant, on saura pas, et puis je fais avec, et puis tant pis, j'arrête de chercher. Et peut-être que tu vivras mieux.
Ouais, je pense que c'est la deuxième solution meilleure.
C'est un peu comme chercher une femme pleine de F avec plein de H, tu vois. C'est un moment... Il y en a qui ont cherché toute leur vie, quoi.
Ouais, c'est une aiguille dans une botte de foin, ouais.
Voilà, camarade.
Bah, merci beaucoup, Stéphane.
C'est moi qui te remercie. Bonne chance. Avant de raccrocher, j'invite ceux qui seraient curieux de la description à la lire. Ils trouveront en description le lien vers la réservation des études de cas, sachant que là, ils n'ont entendu qu'à environ un tiers. Les deux premiers tiers n'ont pas été enregistrés. Et pour ceux qui voudraient des études de cas sans compter, à tarif plus intéressant, il y a l'abonnement VIP. Encore une fois, les liens sont en description. Au revoir.